Il y a 17 ans, je me trouvais au Château Blanc, dans la petite maison, en un petit bureau de prière, et j'étais avec Jean et Maggie. Et à cette époque, j'avais mon cœur rempli de l'Afrique centrale. J'avais commencé une œuvre là, et j'avais été tellement béni de recevoir une centrafricaine au Château Blanc, Maggie Bartabourou. Parce que pour moi, c'était aussi une réponse à la prière, une vraie centrafricaine en chair et en os, hein, dans ce ministère. Et on priait tous les mardis pour les nations. Hein, tous les mardis, pour 2 ou 3 heures, on priait pour les nations. Et là, j'étais là, oui, en plus des jeudis, hein, on avait des jeudis, hein, mais on était sérieux à l'époque. Et vous êtes toujours sérieux. Et quelquefois, je ne sais pas, quand vous êtes saisi par le Saint-Esprit, c'est comme si Jésus y met ses paroles en vous, dans la prière. Et vous écoutez votre prière, il dit, mais il y a un petit plus là. Ce n'est pas juste mon intellect qui prie, il y a quelque chose qui est le fruit d'une onction. Et là, je commençais à prier et j'étais tout excité. Et je dis, voilà, Seigneur, tu es le Dieu des pygmées et des présidents. Oh! Et j'ai dit, c'est de paix, le Dieu des pygmées et des présidents. Et là, il y a quelque chose qui a changé dans l'atmosphère. Et je savais que j'avais prié les paroles que Dieu voulait que je prie. Et ça c'est vraiment la prière. Et bon, je vais donner beaucoup de témoignages ce matin, mais je vais ouvrir de temps en temps la Bible, et en Jean 15, hein, et verset 7, c'est un verset qui est en moi en ce moment, je prie ça tout le temps, il dit, Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi, » voilà, c'est surtout demeurer dans son amour, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. » Et on peut même raccourcir cette phrase, mes paroles en vous. Et je pense que c'est une définition de la prière. Je suis toujours un grand apprenti dans la prière. Mes paroles en vous. Et c'est ça la vraie prière. Ce n'est pas mes idées, Seigneur, bénis-moi, donne-moi. Bon, il y a une place. Donne-moi aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Dieu nous demande de demander. Mais quand vous voulez vraiment transformer les situations. Ce n'est pas avec mes petites paroles personnelles que je vais transformer les situations. Mais quand Dieu, il met sa prière en moi, il met sa parole en moi, par l'inspiration, ça, waouh, ça change le monde. Ça change des choses. Et donc, ce n'est pas toutes les 5 minutes qu'on va prier comme ça. Il y a des moments où ça sort. Et c'est vraiment une prière prophétique. Mes paroles en vous. Et il dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez, on a eu ça ce matin par Odette, demandez tout ce que vous voudrez. Waouh! Tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Mais est-ce que c'est ce que je veux ou est-ce que c'est ce que lui, il veut au travers de moi? Mais ce que lui, il veut, ça va me bénir aussi. C'est ce que je veux aussi. On est accordé. Et donc là, j'avais prié, Seigneur, tu es le Dieu des pygmées et des présidents. Et à l'époque, je priais beaucoup pour les pygmées, parce que j'étais en train de vivre une aventure merveilleuse. J'avais eu à cœur de développer, de voir un peuple non atteint touché avec l'Évangile. Et donc, j'étais beaucoup lié avec la République centrafricaine. Je faisais régulièrement les voyages là-bas. Et la stratégie, c'était de former des frères et des sœurs africains. Et donc, bon, Centrafrique, l'Afrique est magnifique. Si jamais vous avez l'opportunité d'y aller, c'est magnifique. Et donc là, je me rappelle, je suis allé en Afrique. J'ai passé des heures et des heures. J'ai voyagé, je ne sais pas combien de fois, des dizaines de fois. Hein, et finalement, j'avais rencontré un ami là-bas, Anatole Banga. Et de rien, on a pu mettre en place une petite école de formation. et on formait des gens. Et après, il y avait le moment pratique et j'ai eu le privilège d'être avec eux dans leur première expédition vers les Pygmées. Et donc là, c'était vraiment magnifique. On prend les machettes, on voyage avec une bus, et quand il n'y a plus de route, vous pénétrez la forêt équatoriale. Mais c'est super. Et c'était là, tac, tac. Heureusement qu'il y avait 5 Africains devant moi, hein, parce que tout seul, hein, moi, ils avaient beaucoup coupé. Moi, j'étais là, derrière. Je faisais semblant. C'est eux qui faisaient le vrai travail. C'est eux qui faisaient le vrai travail. Et après, incroyable, c'est vrai cette histoire, mais quel privilège de l'avoir vécu. J'arrive dans une sorte de clairière, là, campement pygmée. Et je suis le premier blanc qui arrive dans ce campement. Ils avaient vu les blancs de loin, mais là, avoir un contact avec un blanc, première fois. Et donc j'arrive. Et c'était comme l'extraterrestre qui arrive. Les gens, les enfants surtout, commençaient à me toucher ma peau, mes cheveux surtout, là, avaient des mains partout. Incroyable. Et ils étaient là, ils ont des petites maisons, c'est comme des igloos, et avec des feuilles placées, c'est incroyable. Et là, on était là, et je me rappelle, j'avais emmené peut-être... On était 6 dans l'équipe. Il y avait Anatole et 5 autres hommes qui se formaient pour être missionnaires parmi les Pygmées. Et donc, on était avec eux et c'était magnifique. Ils étaient tout excités. Voilà, c'était comme si Dieu arrive chez eux. Tu vois, c'est... Et après, ils me donnent. Voilà. Ils sont tous par terre, là. Ils sont tous par terre. Et ils ont dit, allez, il m'offre un peu d'eau. Il y a des choses qui flottent dans l'eau et tout ça, mais il faut boire. Hein. Et après, ils m'offrent un peu de nourriture. Hein, il y a des chenilles qu'ils vous offrent. Il faut manger. C'est l'avenir de l'église. C'est les Pygmées qui tiennent sur une petite chenille manger. Hein. Et c'est bon. Hein, je peux vous assurer que c'est bon. Et après, on a mangé. Et ils ont dit, mais ils sont très accueillants à l'hospitalité dans ces cultures. Hein. Il dit, voilà, il faut nous parler maintenant. Il faut nous parler. Et j'ai dit, voilà, j'avais un traducteur. Hein. Heureusement, je ne parle pas couramment le pygmée. Hein. Et donc là, il dit, il faut nous parler. Et donc j'ai dit, mais avant de parler, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous connaissez de Dieu, vous? Et ils ont dit, mais nous... Bien sûr, bon, on trouve pas les athées hein, chez les pygmées. Hein. Je peux vous dire qu'ils vivent entourés par la forêt, la création, et pour eux, ils sont plus croyants que nous. Hein. Leur aptitude spirituelle, c'est énorme. Hein. Quelquefois, c'est un peu branché vers le côté obscur, mais bon, ils n'ont aucun doute qu'il y a les esprits, tout ça, c'est très solide en eux. Et ils ont dit, mais nous, on avait un contact avec le Dieu créateur, le Dieu qui nous a donné la forêt et toutes les bonnes choses à manger, les fruits et tout ça. Et on savait qu'un jour, on était aimé et tout ça. Mais malheureusement, un jour, il y avait une séparation. Et maintenant, on doit servir les petits dieux, on doit leur donner à manger, on doit apporter les fruits. Mais on a peur de ces petits dieux parce qu'ils sont méchants avec nous et on aimerait bien retrouver le contact avec le vrai Dieu. Mais c'est fantastique quand quelqu'un vous dit ça, n'est-ce pas? C'était tout préparé, tout est préparé. Et j'ai dit, mais il faut savoir qu'on ne peut pas juste leur donner une Bible parce qu'il n'y a pas une Bible dans leur langue. Et c'est un peuple qui, bon, ils sont avec la nature, hein, ils sont... Il ne faut pas faire une étude sur Lévitique. Hein. Il ne faut pas voir, maintenant, on va ouvrir chapitre 5. On ne fait pas ça. Et donc là, j'ai dit, mais est-ce que vous voulez savoir comment avoir le contact avec ce vrai Dieu encore? Ah oui, ah oui, ah oui. Et j'ai dit, est-ce que vous savez comment est la personne qui nous donne ce contact avec ce vrai Dieu de nouveau? Ah oui, oui. Et donc, j'ai pris une calebasse, je suis allé à la rivière, je l'ai rempli et j'ai demandé à tous les pygmées de s'asseoir devant, tous les chefs de la tribu. Parce que les pygmées, il faut le dire, ils sont très très méprisés en Centrafrique. Ils sont traités comme des sous-hommes. Ils sont même mis en esclavage par beaucoup, les Bantous. Et il y a une exploitation terrible. Et souvent, ils se droguent. Ils ont des, c'est pas le sauvage noble de Rousseau. Hein. C'est souvent, ils sont malades. Il y avait beaucoup de problèmes. Et donc là, même pour les équipiers avec moi, il y avait un peu d'orgueil. Hein. Les Bantous qui étaient avec moi, les grands Africains, ils arrivaient. Voilà, on va vous coloniser un peu. Et je voulais casser tout ça. Et donc, j'ai dit, je vais vous montrer comment est la personne qui vous donne le contact avec Dieu. Il dit, on veut savoir. Vous voulez savoir? Oui, oui, oui. Et ils sont comme ça. Oh, ils écoutent chaque parole. Alors là, j'ai pris cette calebasse. Ils étaient tous assis devant moi. Et je me suis agenouillé devant eux. Et j'ai commencé à laver leurs pieds. Et quand vous prenez un pied pygmé, qui n'a jamais porté de chaussures, jamais, jamais. C'est comme vous prenez un morceau de bois. Et, mais en même temps, c'est comme si vous touchez l'éternité. C'est pas comme... Il y a quelque chose de noble. Moi, j'ai commencé à pleurer. J'étais comme cette femme qui a lavé les pieds de Jésus. J'ai dit, mais je lave les pieds de Jésus. J'étais un petit bout d'homme qui porte que un petit morceau de matériel. Et vous prenez son pied, là, comme ça. Et après, j'ai pleuré. J'ai demandé à mes autres de me suivre et de laver les pieds de ces gens-là. Et on pleurait, et même eux, ils pleuraient, parce qu'ils voyaient, comme si c'était un acte symbolique. Et après, j'ai fait ça, j'ai essuyé mes yeux, et j'ai dit, voilà, il s'appelle Jésus-Christ, il est venu laver les pieds des hommes, et mais il était Dieu. Et c'est cette personne, on veut partager cette personne avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse vivre avec vous et partager cette personne? Et ils ont dit, mais si, il est comme ça. On n'a jamais eu ça. Vous êtes venus, vous mettez à genoux devant nous. Oui, venez. Et donc, j'ai pu laisser 3-4 personnes là. Il n'y a que un gars qui est resté. Parce que c'est très, très dur. Très, très dur de vivre en forêt. Hein. Il y a des moustiques, il y a des maladies. C'était très, très difficile. Mais un gars qui est resté. Et donc, moi, je suis revenu, hein. Après, en France, et c'est là où j'ai commencé à prier pour les pygmées. Et donc, j'avais à cœur, hein, dans cette réunion de prière, les pygmées. Mais quand j'ai prié, tu es le Dieu des pygmées et des présidents. Waouh! Les présidents, les pygmées, c'est drôle comme prière. Et donc, moi, cette prière, ça a préparé un deuxième voyage. Et donc, j'ai pris le train, j'avais mis des livres, des trucs médicaux. J'avais beaucoup de choses pour apporter aux pygmées. Je suis parti Charles de Gaulle avec mon gros sac noir. Et j'allais encore faire un séjour chez les pygmées. Voilà. Est-ce que le missionnaire fidèle, est-ce qu'il aura fait quelque chose? Parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Hein. Il était tellement perdu. Alors là, j'arrive à Charles de Gaulle, le missionnaire, le dieu des pygmées, des présidents, et j'ai pris mon sac vite, là, je suis allé. C'était pour un vol de 10h30 le soir. Donc là, j'arrive, c'était déjà nuit. Je donne mon passeport, c'était un passeport suisse à l'époque, hein, parce que les Suisses n'avaient pas besoin de visa pour aller en Centrafrique. Et donc, bon, grâce à Sylviane, j'ai le passeport suisse. Et donc, je donne mon passeport. Et la dame dit, il y a un problème. J'ai dit, quoi, il y a un problème? Ouais, il y a un problème. J'ai dit, mais on n'a pas besoin de visa. Elle dit, c'est pas le visa. Il dit, ton passeport est périmé. Oh, mince! Tout d'un coup, mais quelle bêtise! Mais j'ai pas regardé mon passeport. Moi qui voyage dans le monde entier, et tout d'un coup, et en effet, mon passeport était périmé. J'ai dit, oh, quelle horreur. Et normalement, je devais faire rendez-vous avec un autre gars qui venait de Suisse, qui allait m'accompagner pour cette expédition. Et donc j'ai dit, bon, mais j'ai pris mon sac, j'ai dit, est-ce que vous pouvez passer ce sac quand même à monsieur tel et tel qui est sur l'avion, parce qu'il y a tous les enseignements là-dedans. Et donc j'ouvre le sac et je vois une paire de culottes de femme. Et après, j'ai dit, mais Sylvain, bon, c'est pas sa taille, tu vois. Mais après, il y avait 3 ou 4 autres culottes, après il y avait une brassière, et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et après, quelle horreur, j'avais pris le mauvais sac du train. C'était comme le mien, et donc à ce moment-là, je dis, mais Robert, t'es doublement stupide. Tu vois, et je dis, mais qu'est-ce que je fais? Elle dit, mais tu peux pas prendre l'avion. Et je dis, mais j'ai le mauvais sac. Et donc j'ai pensé à cette pauvre dame, peut-être pour une week-end romantique, qui sont mon enseignement. J'ai dit, oh là là, là là, là là. Et à ce moment-là, tu es découragé, tu vois. Et donc, là, c'était peut-être 11 heures le soir, et je ne pouvais pas prendre un train pour rentrer. Et donc je suis allé dans la salle d'attente de Charles de Gaulle, de l'aéroport, et je me suis mis par terre, et je me suis couvert, et il me restait toujours une moustiquaire, parce que j'avais quand même un autre petit sac, et je me suis couvert de cette moustiquaire, et j'ai commencé à pleurer toute seule avec toutes les SDF qui dorment à Charles de Gaulle. Et j'ai commencé à pleurer. Je dis, mais c'est pas possible. Et j'ai entendu presque la voix de Satan qui me disait, ah, tu vois, où est le Dieu des pygmées et des prisonniers? Mais où est ce Dieu? Mais surtout cette phrase, il se moquait de moi. Il dit, mais tu peux même pas avoir un passeport en ordre et tu veux influencer ce pays. C'est fini pour toi. C'est nul, toi. T'es nul. Voilà, merci. Et ce qui était pire, il jouait un chant des Beatles. C'est toujours illuminé et c'était Judy in the sky with diamonds. C'est une histoire d'LSD apparemment. Et donc là, j'avais Judy in the sky with diamonds avec toute la voix de découragement. Et j'ai dit, oh mince, c'est terrible. Et je descendais dans mon esprit. Mais à un moment donné, plaf, on ne peut pas aller plus bas. Et c'est là où Dieu m'a rencontré. Il m'a dit, Robert, j'arrangerai tout cela. Je dis, mais est-ce que c'est possible? J'arrangerai tout cela. Et donc, 6 heures le matin, je me réveille. Je n'ai pas beaucoup dormi. Et le premier miracle, je tombe sur un agent d'SNCF sympa. Hein, il faut le faire. Hein. Et cette personne me sourit et j'explique ma situation. J'ai dit, j'ai un sac ici. Oh, pas de problème, je vais téléphoner pour vous. Elle s'est décarcassée, elle a téléphoné. Oh, on a trouvé votre sac. Voilà, j'ai demandé au monsieur de l'envoyer. Ça serait ici en 2 heures. Oh, déjà, incroyable. J'ai dit, vous pouvez prendre l'autre. Oh oui, pas de problème. Il y a une dame sans culotte quelque part. Mais bon, c'est... Et donc... Voilà, j'ai dit, mais ça m'avait encouragé de voir la rapidité que ce premier problème était réglé. Et après, j'ai dit, bon, mais je vais aller à l'ambassade suisse, là, à Paris, j'étais déjà à Paris. Donc j'ai pris le métro, j'arrive à l'ambassade suisse, j'ai dit, bon, mais ça venait de s'ouvrir. Voilà, j'ai dit, j'ai un problème, qu'est-ce que vous pouvez arranger ça? Oui, pas de problème. Dans une demi-heure, ils avaient renouvelé mon passeport. Et ça m'a coûté 3 fois rien. C'est dit, mais incroyable. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et après, je suis revenu à Charles de Gaulle. Et normalement, il n'y a qu'un avion par semaine pour la République centrafricaine. Et j'avais aussi un billet très bon marché qui est non remboursable normalement. Et donc, j'ai expliqué ma situation. J'ai dit, j'étais en voyage humanitaire et tout ça. Et ils ont dit, oh, mais quand même. Mais ici, on attend. Et on met quand même exceptionnellement, parce que exceptionnellement, on fait un autre vol pour la Centrafrique. C'est parce qu'il y avait beaucoup du monde cette semaine qui voulait aller en Centrafrique. Et donc, on a un vol qui part demain, dans un jour. Et donc, parce que on a besoin de remplir cet avion aussi, on change votre billet, il faut payer 15 euros. Et on, oui. Et donc, ils avaient changé mon billet et je perdais 15 jours, finalement. Incroyable. Et donc, voilà, je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, il y avait Anatole qui m'accueillait à l'aéroport. Il m'a dit, mais comment est-ce que vous avez su qu'on avait retardé le congrès d'un jour? J'ai dit, oh, je ne savais pas. Et donc, c'était super, je n'avais rien manqué. Il était là à l'aéroport, il m'a emmené encore pour notre visite chez les Pygmées. Et encore, j'étais content là. Là, je savais que, voilà, Dieu va faire quelque chose. Et donc là, je suis arrivé, même endroit, mais cette fois, c'était rempli de pygmées. Ils avaient construit une petite église, hein, une énorme, bon, une petite église avec le bois, avec des feuilles. Et ils avaient 50 pygmées qui louaient Dieu. Et le soir, il faut le vivre. Ils construisent un énorme feu, c'est leur tradition, un énorme feu. Et là, au milieu de la forêt, ils dansent autour du feu, collés l'un l'autre en cercle. Et ils chantent des chants magnifiques et tout ça. Et avant, ils chantaient des chants païens. Mais maintenant, il y avait ces 50 pygmées qui chantaient des chants pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans une année? De rien, ils sont 50 qui chantent pour Jésus. Bien sûr, ils ne sont pas tous des saints, parfaits, tout ça, mais ils avaient accepté Jésus. Toute la tribu avait accepté Jésus, parce que c'est un peuple communautaire. Ce n'est pas les décisions individuelles. C'est le baptême qui fait le tri après. Hein. C'est comme ça qu'on avait travaillé. Mais il y avait ce Benjamin blessé. Je dis, mais Benjamin, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, vous voyez cette femme-là? J'ai dit, ouais, ouais, ouais. Il dit, elle était morte. J'ai dit, quoi? Elle était morte? Ouais, 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 elle est morte. Et là, ça devient africain maintenant. Il faut le croire. Il dit, elle est morte. Et c'est dans la forêt, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a rien. Et donc, les gens, ils pratiquent beaucoup la magie, surtout pour se guérir et tout ça. Et donc, cette femme est morte et la famille est allée voir le marabout. Il y avait un marabout, un féticheur qui dirigeait toute la tribu. C'était lui l'homme puissant. Et il a dit, ils ont apporté la femme morte devant cet homme. Et il a dit, il a dansé toute la journée, il s'est coupé, il a fait toute sa magie et ça n'a pas marché. Et il dit, à ce moment-là, moi j'ai eu la voix de Dieu dans mon cœur qui me disait, allez, tu demandes à la famille si tu peux prier au nom de Jésus. Et il a fait, quel courage. Il l'a fait, il prie au nom de Jésus et la femme est revenue à la vie. Alléluia, ça c'est, j'invente pas, parce que j'ai vu cette femme et en tout cas le résultat, c'est que toute la tribu a dit, on va suivre Jésus. Si vous allez sur YouTube, vous mettez Benjamin Lessie, L-E-S-S-E-Y, témoignage de résurrection, vous allez le voir, je lui avais demandé de confirmer ça. Hein? Ouais, ouais. Donc bon, c'est sur mon Facebook aussi, c'est. Et donc, on peut croire ce qu'on veut par rapport à ça. C'est en Occident, on ne croit pas tellement à ces choses et on n'a pas, on n'est pas dans l'environnement où on a toujours besoin de ça. Mais eux, ils prient beaucoup pour les résurrections des morts, pour la guérison des maladies. Incroyable. Et donc, 50, toute la tribu a dit, on sert Jésus. Et après, voilà, il fallait éduquer, il fallait parler. Et pendant une année, il avait fait. Et là, il y a une belle église avec toutes ces pygmées qui dansaient pour Jésus. Et j'étais content, je dis, oh mais Seigneur, merci. Tu es en effet le Dieu des pygmées. Alléluia, alléluia, tu es le Dieu des pygmées. Mais où est-ce que je vais trouver un président dans cette forêt équatoriale? Et une soirée, je partageais, bon, on lit un autre verset de la Bible, 1 Pierre, c'était mon message. Et vous savez, c'est magnifique de prêcher. Quand, au milieu de la forêt, il y a les étoiles qui brillent, vous êtes en plein air, c'est magnifique. Et donc, je prêchais d'un Pierre, chapitre 1, 18, et je parlais d'être délivré du passé, d'être délivré des ancêtres, d'être délivré de tout ça. Et il dit, vous savez en effet, 1 Pierre 1, 18, vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et je disais que même s'il y avait les ancêtres puissants et tout ça, qu'avant tout cela, il y avait un agneau. Et qu'on avait tous comme ancêtre l'agneau de Dieu qui nous aime. Et surtout, c'était son sang qui est au début de toute chose. Et il y a un effet domino. Que ce sang, paf, ça purifie le passé. Ça casse les malédictions. Et il y avait ce sang de l'agneau qui casse toute malédiction sur la vie. Toute vaine manière de vivre héritée de nos ancêtres. Ça marche en France aussi. Hein? Toute vaine chose, toute vaine manière de vie, tout alcoolisme, toute drogue, toute malédiction, tout ça est cassé en Jésus-Christ, le sang de Jésus versé. Donc je parlais de tout ça. Et tout d'un coup, je vois un jeune homme que je n'avais jamais vu avant. Je ne sais pas pourquoi il se promenait dans la forêt équatoriale comme ça. C'est bizarre. Mais là, il était là dans la réunion. Et il lève sa main. Et il dit, voilà, je suis vraiment touché, je veux donner ma vie à Jésus ce soir. C'est vraiment incroyable parce que moi je connais cette phrase, la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Ça me touche ce soir. Je dois parler. Il dit, moi je suis le fils de l'empereur Jean Bidel Bokassa. Et c'était l'empereur de la Centrafrique quand il y avait De Gaulle, les diamants, toute cette histoire. Hein. C'était son papa. Et c'est un gars qui avait ruiné son pays, qui avait fait des choses horribles, qui avait assassiné des gens et tout ça. C'était un vrai tyran. Et il était le fils. Et il dit, je porte un nom très lourd. Bon, son père était décédé hein, depuis plusieurs années, mais il dit, moi je porte un nom très lourd et je veux vous demander de me pardonner. Il dit, c'est pas moi-même, mais aussi le nom de mon père. Est-ce que vous pouvez le faire? Et donc, il y avait un moment, et c'était électrique. Hein, et donc, il y avait quelqu'un qui représentait les Pygmées. Bon, ils n'étaient pas trop au courant, hein, il faut le dire, mais eux, ils l'ont fait. Mais j'avais d'autres Bantous dans mon équipe et il y avait une gars qui s'est levé, ils se sont embrassés. Voilà, je te pardonne. Il y avait quelque chose qui guérissait le cœur de Jean-Serge. Et après, un gars s'est levé, Didier Baloussa. Et ce gars, il se lève, il pointe le doigt, il dit, mais moi, je ne te pardonne pas, parce que ton père, il était responsable pour la mort de mon père, et je ne peux pas tolérer ça. Il criait ça. On est en réunion, hein, mais bon, c'est en plein air, c'est en Afrique. Mais fou, ça chauffait. Et tout d'un coup, il s'effondre en larmes. Il dit, mais ce soir, Dieu me montre combien il m'a pardonné. Dieu me montre son amour. Et donc, Jean-Serge, si toi t'es un frère maintenant, je te pardonne. Et ils se sont embrassés comme ça. Et le moment qu'ils se sont embrassés, il y avait un coup de tonnerre dans le ciel. C'est effrayant. Hein? Et il a commencé à pleuvoir. Et tous les Pygmées commençaient à danser. Et tout le monde commençait à crier. Alléluia, alléluia. Oh, on a dansé toute la nuit. Et c'était comme Ben-Hur, quand il y avait ce moment où les lépreux, la fin du film Ben-Hur, où les lépreux sont guéris. Et quelque chose était guéri ce soir-là. Et là, je dansais avec les Pygmées, il pleuvait, et tout était mouillé, tous mes vêtements, tout, mais on s'en foutait. Bon, il fait chaud le jour après, hein, c'est pas grave, il n'y a pas le vent du nord. Hein. Je crie, mais alléluia, oui, tu es en effet le Dieu des Pygmées et des présidents. Il y a quelque chose là qui touchait le côté politique de Centrafrique. Mais, et après Didier Baloussa et Jean-Serge Bokassa, ils étaient tous les deux étudiants dans notre école de formation qu'on avait établie. Ils ont étudié une année ensemble. Et après, des années après, bon, après le travail parmi les Pygmées commençait à grandir. Et ils avaient formé 8 églises. Ils sont allés évangéliser d'autres Pygmées. C'était magnifique. Et quelques années après, Maggie est allée dans un congrès de l'ONU pour la réconciliation des anciens présidents du pays. Et c'était très dur. Surtout, il y avait David Dacko et Abel Gumba. C'était deux anciens présidents qui ne s'aimaient pas du tout. C'était à la radio et tout, hein, en Centrafrique. Et ça ne marchait pas, et tout d'un coup, quelqu'un a levé la voix. Et elle a dit, il y a 3 ans, j'étais dans la forêt, et j'ai vécu la réconciliation avec le frère. Il a témoigné, c'était Jean-Serge qui était là. Et son témoignage a libéré l'Esprit de Dieu. Et même tous les politiciens, hein, c'était dans leur salle de réunion de parlement, ils ont commencé à dire, nous voulons la prière, c'est sur la radio nationale, Maggie était là, et ça a créé une réconciliation entre Dacko et Gumba. Et donc je disais, mais cette prière avait encore un effet domino, mais c'est pas fini, parce que l'année dernière, ou même cette année, ils avaient des élections en RCA, et un des candidats était mon ami Jean-Serge Bokassa. Et je dis, mais est-ce que c'est le moment où il va devenir président? Et dans mon cœur, je dis, non, il est trop jeune encore. Attends un moment. Mais il est venu troisième. Troisième de toute la nation. Troisième. Sans argent, sans l'appui. La France voulait un autre. Et donc cet autre avait tout l'argent. Mais il n'a pas gagné. Il y a un autre qui a gagné. Et Jean-Serge était troisième. Il est arrivé troisième. Mais maintenant, j'ai appris l'autre jour, qu'il ait le ministère. Il vient d'être nommé ministère de l'intérieur. Il est responsable pour l'armée, la police et la sécurité. Bon, il faut prier pour lui. Mais c'est un chrétien, hein, c'est un chrétien. Et je dis, mais bon, peut-être il va faire un coup d'État. Hein. Non, il ne faut pas qu'il fasse ça. Jean, il ne faut pas qu'il fasse ça. Mais je sais, je priais l'autre jour et je priais encore ces paroles de Jésus qui ont mûri en moi maintenant. Et je priais hier et je sais qu'un jour il va être président de la République centrafricaine. Il est jeune, c'est les prochaines élections. S'il fait un bon boulot, s'il peut rétablir l'armée et la police et tout ça, les gens vont voter pour lui. Je suis convaincu qu'un jour, ce gars va être président. Parce que Dieu, il est le Dieu des pygmées et des présidents. Et je dis, mais si vous priez quelque chose, Dieu peut faire beaucoup de choses avec ça. Et je termine là encore avec cette parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen.